Aujourd'hui, en ce jour de la Sainte Barbe, je vais vous parler de l'hérésie des cathares ou albigeois, ce qui a fait couler bien d'encre et qui a été à la source, entre autres, de l'Inquisition. Je me suis largement inspiré d'un livre paru en 1959 dans la collection Je sais, je crois, sous la signature du professeur Guillemin, pour traiter cette question. Dans la chrétienté d'Orient, l'hérésie de Bogomil, un prêtre bulgare du Xe siècle, s'était propagé en passant par Constantinople et l'Asie mineure, ramassant au passage toutes les traces d'hérésie d'une région en fermentation spirituelle permanente, région dans laquelle avaient fleuri, entre autres, les manichéens. Malgré l'intervention de l'empereur, cette hérésie s'était implantée dans les montagnes de Serbie et de Bosnie, à la limite des influences grecques et latines. Dirigés par des évêques, les hérétiques propageaient leurs croyances grâce au développement des relations commerciales. Leurs thèses trouvèrent en Italie et en Languedoc un terrain rendu propice par l'affaiblissement d'une église de plus en plus accaparée par les biens matériels. L'hérésie s'organisa. On vit un diocèse en Lombardie, dans les Marches, en Ombrie, jusque dans le nord des États de l'Église. Nicétas, un évêque bogomile venu de Constantinople, réunit en 1170 un concile cathare à Saint-Félix de Caraman, près de Toulouse, ce qui stabilisa une hérésie qui se répandit immédiatement. Il accrédita le dogme et le rituel adopté dans les Balkans. L'hérésie devenait une institution avec évêque et diacre. On le dit pas toujours. Cette hérésie enseigne que le monde est l'œuvre d'un dieu mauvais, Satan ou Lucifer, l'âme créée par le Dieu bon est enfermée dans le corps. Sa libération est possible après la venue de Jésus, qui n'eut aucun contact avec la matière impure. La forme humaine de Jésus ne fut qu'une apparence. Il faut renoncer à l'œuvre de chair, s'abstenir de toute alimentation provenant de la procréation, jeûner, etc. Ceux qui se vouent à cette règle reçoivent le consolamentum qui fait d'eux des purs, des cathares. Le parfait qui désobéit à sa vocation et le sympathisant qui en est resté à l'écart sont destinés à subir autant de réincarnations qu'il en faudra pour les détacher de la matière. C'est là leur seul châtiment, il n'y a ni purgatoire ni enfer. Le Dieu bon finira par triompher, nul ne sait quand. On reconnaît une origine orientale dans tout cela. La métempsychose est une croyance particulièrement funeste. Le pauvre homme, le malheureux qui est en face de vous, ne mérite aucune pitié de notre part, car il ne fait qu'expier les fautes qu'il a commises dans une vie précédente. En 1163, au Concile de Tours, le pape avait qualifié d'albigeois les hérétiques dont la doctrine simple et forte avec toutefois des pratiques accommodantes pour ceux qui n'étaient pas des parfaits, attirait beaucoup de monde. Le clergé et la foule s'indignaient parfois. Une législation répressive avec condamnation du pouvoir civil, essentiellement la confiscation de biens, se mit en place. Mais voici que le vicomte de Béziers a préféré protéger les hérétiques. En 1181, un cardinal organisa une expédition contre lui. L'affaire tournait mal. Elle éclata en 1208, après l'assassinat de Pierre de Castelnau, légat du pape Innocent III, par un écuyer au service du comte de Toulouse que le pape venait d'excommunier, le comte de Toulouse. L'abbé Huvelin a noté que dans cette hérésie, il y avait 10 erreurs principales. Premièrement, il condamnait une église devenue riche et avide d'honneur. Constantin a transformé le pêcheur de Tibériade en potentat couvert d'étoffes somptueuses. C'est ce que disaient les cathares. Cette question revient périodiquement au premier plan. Il n'est certes pas indiqué d'étaler s'illustrer par la gloriole de somptueuses richesses. Mais rechercher la splendeur pour honorer Dieu n'est pas mauvais en soi. Avant le Golgotha, il y eut les rameaux. On se pressait pour déposer son manteau sur le parcours du Christ. Peu après Noël, il eut la visite des mages avec leurs cadeaux princiers. Le Christ, tout en vantant la noblesse d'Élise des Champs, parlait de Salomon dans toute sa gloire. À propos du parfum versé par Marie-Madeleine, dont Judas affirmait qu'on aurait mieux fait de le vendre, Jésus répondit entre autres « Laissez-le faire, des pauvres vous en aurez toujours. C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. » Si les grands de l'Empire byzantin ne répugnaient pas aux ornements somptueux, le peuple et eux-mêmes pensaient que rien n'était trop beau pour Dieu. Il n'est que de voir Sainte-Sophie et surtout le Saint-Sépulcre à Jérusalem. Certains regrettent que ce lieu désolé du Golgotha soit devenu une basilique ruisselante de dorures et de riches statues, mais le but n'était pas de rechercher une vaine gloriole, le but était simplement d'évoquer le Sauveur dans toute sa gloire. La richesse n'est pas mauvaise en soi, mais elle risque souvent d'être mauvaise par l'usage qu'on en fait. Cela dit, il faut garder à la mesure toutes les choses terrestres et ne pas se laisser emporter par la vanité. Nos derniers papes en ont donné le témoignage. Jean XXIII a vendu sa tiare dont il a donné le prix aux pauvres. Jean-Paul II a remplacé sa crosse par une autre beaucoup plus simple. Et notre dernier pape tient à conserver une allure aussi modeste que possible lors de ses voyages. Du temps des cathares, le concile de Latran recommanda aux dignitaires de l'Église de renoncer au clinquant. Deuxième erreur. Pour les albigeois, l'Église véritable ne pouvait continuer que dans le secret de quelques sectes. Là aussi, c'est une tentation permanente. Il n'est que de constater la multiplication des sectes protestantes. Le culte du secret est continu chez l'homme qui cherche à y trouver un motif de satisfaction à son orgueil. Moi, j'ai compris de quoi il s'agissait. Les autres sont des benêts embourbés dans leur ignorance. La réponse complète est donnée dans le point 5, mais on peut déjà remarquer que c'est pour le moins imprudent de faire confiance à un gourou pour tirer la substantifique moelle de l'enseignement des apôtres. Troisièmement, naturellement, pourrait-on dire, les albigeois niaient l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique. « Nous sommes tous prêtres », c'est un slogan qui a ressurgi dernièrement. Certes, nous participons à la messe et à la vie de l'Église. Saint Paul l'a dit et répété, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est dans la première aux Corinthiens. Cela dit, c'est aux apôtres et à eux seuls que Jésus confia le soin de remettre les péchés. Et c'est aux apôtres et à eux seuls qu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce n'est qu'aux prêtres que Jésus a donné ce rôle. Quatrièmement, les albigeois affirmaient qu'un prêtre à la vie scandaleuse ne pouvait valablement administrer les sacrements. C'est déjà ce que prétendaient les donatistes au IVe siècle. C'est, disait le pape d'alors, confondre la noblesse du vase et la sainteté de la liqueur qu'il contient. En cas de nécessité, par exemple dans un camp de concentration, il est tout à fait licite de célébrer l'Eucharistie dans un vase quelconque. Le vin n'en est pas moins le sang du Christ. Saint Augustin a dit à Donna, ce n'est pas Judas le pécheur qui baptise, mais notre Seigneur par la main de Judas. Cinquième point, les cathares prétendaient que la doctrine chrétienne comporte des secrets qu'il convient de chercher avec des guides agréés, certains diraient des gourous. Saint Luc rapporte ces paroles du Christ dans son chapitre 10. Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Il n'y a nulle cachotterie dans la doctrine de l'Église. Simplement des mystères qu'elle expose sous l'autorité du pape. C'est le serpent qui susurre, ce n'est pas la trompette de l'ange. Sixième, autre divergence avec l'Église peut-être la principale, le difficile problème du mal sur lequel saint Augustin a tant réfléchi. Peut-on dire du mal qui n'existe pas, qui est simplement une absence de bien, un peu comme les trous du gruyère? Il est vrai qu'on ne peut parler du mal que s'il y a du bien autour, comme on peut parler de trous que s'il y a du gruyère. L'Église dit le mal vient du détournement de la liberté humaine ou angélique. Que faut-il ajouter? Là est le péché, non dans la liberté elle-même. Selon les manichéens, le mal est un principe mauvais. Satan ou Lucifer est à l'origine de la matière et existe par lui-même. Ce qui touche à la matière est mauvais. Satan est le roi de ce monde. Alors, on a quelquefois l'impression qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Après leur consolamentum, les parfaits devaient abandonner tout lien avec la matière. Et ça c'est contraire à ce que dit l'Église. Une des conséquences de cet état d'esprit était que des engagements, la parole donnée n'avait guère d'importance. Du temps de la chevalerie, cet état d'esprit était fort mal reçu, ce qui explique les réactions violentes contre cette secte. Que des questions politiques ne soient ensuite branchées sur la question ne change pas la nature profonde du scandale. Septièmement, notre situation d'esprit incarné est vue comme une déchéance. Les cathares considéraient que l'âme était tombée dans un corps où elle était comme engluée à cause d'un dieu mauvais. C'était déjà un peu l'opinion de Platon, pour qui le corps n'était pas nécessaire à l'homme. L'Église considère au contraire que l'union âme-corps est une dignité extraordinaire qui donne à l'homme une fécondité que les anges n'ont pas. Grâce à leur corps, les hommes peuvent engendrer et procréer des créatures semblables dans lesquelles Dieu insufflera une âme à son image avec sa capacité d'aimer. C'est là la toute première alliance entre Dieu et l'homme, alliance que la faute originelle n'a pas détruite, une alliance extraordinaire. De plus, par leur travail, les hommes peuvent compléter la création, par exemple en bâtissant des cathédrales. Faut-il rappeler que le caractère pénible du travail est la conséquence du péché, comme il est écrit dans le chapitre 3 de la Genèse, mais que sa noblesse est affirmée dans le premier chapitre. Il ne faudrait pas se lasser de proclamer notre noblesse de créature apte à se reproduire, auquel il a été donné de compléter la création. Huitièmement, le rejet de la matière entraîne celui de l'incarnation. Ce mystère qui nous rend de la même famille, de la même race que Jésus, lequel nous a dit « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ». Pour les cathares, Jésus est un ange supérieur venu nous enseigner une doctrine nous permettant de nous échapper de la matière. Son physique n'était qu'une apparence. Cela avait été déjà prêché du temps de Saint Jean, car certains n'acceptaient pas que le Fils de Dieu pût accepter l'humiliation de la croix. Ils en déduisaient que, au dernier moment, il avait été remplacé par un autre. C'est un peu ce qu'avait pensé Saint Pierre avant que Jésus ne lui réponde « Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route ». C'est dans Matthieu chapitre 16. « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Les cathares avaient les pensées des hommes. Neuvièmement, ces hérétiques rejetaient naturellement les sacrements, puisque la matière est mauvaise. Le baptême ne devait être que spirituel, plus de pain et de vin, le mariage était hors de question, les croix et autres autels décorés étaient à rejeter sans hésitation. Nous retrouvons un écho de ce rejet dans le calvinisme. Les albigeois se voulaient uniquement spirituels, ce qui n'empêchait pas beaucoup d'entre eux de laisser libre cours à leurs passions matérielles. Dixième et dernièrement, l'idée d'un corps intrinsèquement mauvais n'est pas chrétienne. L'Église a toujours respecté le corps des reliques des martyrs au linceul de Turin. Le corps est nourri de l'Eucharistie avant sa résurrection du dernier jour. Il est encensé le jour de ses funérailles. Jean-Paul II et Benoît XVI ont certainement dernièrement rappelé l'existence d'une théologie du corps, outil de notre incarnation. Les plaisirs sensuels ne sont pas rejetés. Isaïe parle de viande succulente et de vin décanté. Le banquet du fils prodigue n'était pas un repas de carême et le vin de Cana était le meilleur. Le tout est de les maintenir au second plan. Saint François parle de son frère Anne. Dans son ensemble, cette hérésie était d'autant plus perverse qu'elle corrodait les bases de la société. Les princes et les notables y étaient opposés par principe. Toutefois, considérations politiques ne tardèrent pas à compliquer l'affaire, comme elles le feront plus tard avec le protestantisme. L'époque des cathares était aussi celle de la reconquête de l'Espagne. La Catalogne cherchait à se faire une place. Nous parlerons tout cela la prochaine fois. Dès son début, l'Église combattit l'hérésie avec des armes spirituelles, d'abord en recommandant la simplicité de la vie ecclésiastique, puis en soutenant les ordres mendiants, dominicains et franciscains, qui s'étaient dégagés de toute propriété foncière. Ce n'est pas une simple coïncidence. Il y avait aussi des remous dans la population des cités, où plusieurs braves gens se virent injustement accusés, voire assassinés sous le prétexte d'être albigeois. C'est dans ce but que l'Église mit en place les tribunaux de l'Inquisition, dans le but d'éviter toute condamnation sans jugement et d'adoucir les peines justement méritées. Pour ne citer qu'un exemple, on donnait aux accusés entre 3 et 6 mois pour revenir sur la sainte doctrine. Nous en parlerons la prochaine fois. En attendant, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une bonne année 2015.